Sur cette nouvelle évangélisation, c'est vrai qu'on a une mission qui est exaltante, qui est extraordinaire, mais qui demande beaucoup aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a beaucoup à donner, mais on a aussi beaucoup à recevoir. Donc je vais reprendre un petit peu le texte de Veritatis Splendor, parce qu'il est sur ce point-là, il est assez clair. L'évangélisation est donc la nouvelle évangélisation comporte également l'annonce et la proposition morale. Donc on est sur un témoignage, mais un témoignage, le père Bernard l'a dit, sur un témoignage de quelque chose de vivant et de quelque chose de vécu. Jésus lui-même, dans sa prédication du royaume de Dieu et de l'amour sauveur, a lancé l'appel à la foi et à la conversion. Comme pour les vérités de la foi et plus encore, la nouvelle évangélisation qui propose les fondements et le contenu de la morale chrétienne montre son authenticité et en même temps déploie toute sa force missionnaire lorsqu'elle est accomplie non seulement par le don de la parole proclamée, mais encore par la parole vécue. Hein, donc vraiment c'est ce témoignage qui est essentiel pour la nouvelle évangélisation, hein, et en particulier une vie dans la sainteté. Alors, c'est là où on comprend tout à fait ce que Jésus nous dit, en disant « Soyez parfaits comme le Père est parfait ». Donc c'est une exigence très très importante dans cette nouvelle évangélisation, c'est de vivre pleinement ce qu'on a reçu, et vraiment c'est ce qui nous est demandé, donc de vivre cette vérité. Il est possible de percevoir immédiatement la beauté de la vérité, la force libérante de l'amour de Dieu, la valeur de la fidélité inconditionnelle à toutes les exigences de la loi du Seigneur, même dans les circonstances les plus difficiles. Donc c'est ce qui nous est demandé, on parlait hier du martyr, il faut aller jusque-là, et certains d'entre nous l'ont sûrement déjà vécu en partie, temporairement, quand on vit des agressions, quand on est montré du doigt, quand on est descendu parce qu'on a affirmé notre foi, c'est vrai que c'est une exigence, mais quel bonheur après nous est donné par le Seigneur. Ce qui est très fort dans cette évangélisation, c'est de rester, on n'est pas seul, hein, et on est vraiment, on est accompagné et on est guidé par le Seigneur, bien sûr, mais par les saints, hein, et vraiment de vivre, hein, et de chercher de trouver auprès des saints et des saintes, et en premier lieu auprès de la Vierge Marie et de Dieu, de la Mère de Dieu, pleine de grâce, et tous les saints, exemple, force et joie pour vivre une vie fidèle au commandement de Dieu et aux béatitudes de l'Évangile. Donc vraiment, là aussi, avoir recours à cet exemple. Hein. Donc, dans l'éducation, l'année dernière, on parlait d'éducation des enfants. C'est vrai que de leur donner cet exemple, de les nourrir avec la vie des saints, c'est quelque chose qui leur permettra après de continuer, et à nous aussi, de continuer de vivre dans ce témoignage. La vie des saints reflète de la bonté de Dieu, lui qui seul est bon. Je saute quelques passages. La vie morale du chrétien a une valeur de culte spirituel, puisée et nourrie à cette source inépuisable de sainteté et de glorification de Dieu que sont les sacrements, spécialement l'Eucharistie. Donc là aussi, quelque chose d'essentiel dans la nouvelle évangélisation, c'est qu'on ne pourra être témoin que si on va se nourrir. C'est Saint Bernard qui disait je ne donne rien, je ne suis que... Je ne redonne que ce que j'ai reçu. Donc on ne peut être témoin que si on vit pleinement notre foi et si on la nourrit, et donc la nourrir par les sacrements. Et c'est vrai que c'est une force extraordinaire. Si, quand on en a fait l'expérience, on a la chance avec Béatrice de pouvoir tous les matins aller à la messe, et vraiment pour nourrir notre journée, c'est vraiment une force extraordinaire. Et ça, je vous le porte en témoignage, parce que régulièrement on a besoin de ça, et c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et puis les autres sacrements, bien sûr, la pénitence qui nous permet de nous remettre d'aplomb, etc. Enfin, de vivre ces sacrements, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qui va nous donner cette force, hein, c'est ce qui nous nourrit. Dans l'exercice dans l'existence morale, on voit aussi l'œuvre, à l'œuvre le service royal du chrétien. Nous sommes prêtres, prophètes et rois par notre baptême. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel, et de le savoir aussi, c'est quelque chose, il faut le vivre, et quand on le vit, on en fait tout à fait l'expérience. Le service royal du chrétien, plus il obéit avec l'aide de la grâce à la loi nouvelle de l'Esprit-Saint, plus il grandit dans la liberté à laquelle il est appelé en servant la vérité, la charité et la justice. Bien. Donc ça, c'est les premiers points sur l'évangélisation qui sont vraiment importants. La source de la nouvelle évangélisation et de la vie morale nouvelle qu'elle propose est suscitée avec les fruits de l'activité missionnaire et de la sainteté. Il y a l'Esprit du Christ, principe et force de la fécondité de la Sainte Mère d'Église. Donc là aussi, de savoir invoquer l'Esprit Saint, c'est ce qui vraiment donne la lumière. Il faut vraiment faire l'expérience dans cette, quand on est en situation et on lié au quotidien et en permanence, vraiment c'est de vivre avec l'Esprit Saint, de lui demander cette force. Et il nous la donne, il nous l'accorde, il suffit de demander. L'Esprit de Jésus accueilli dans le cœur humble et docile du croyant, on doit donc l'épanouissement de la vie morale chrétienne et le témoignage de la sainteté et de la grande diversité des vocations, des dons, des responsabilités, des conditions de vie ou des situations. Donc il nous sera donné à chacun, là où on est, en fonction de ce qu'on est, la force nécessaire. C'est l'Esprit Saint qui a affermi l'âme des disciples, qui leur a dévoilé le mystère de l'Évangile, qui a fait briller en eux la lumière des choses divines, ainsi fortifiés pour le nom du Seigneur. Ils n'ont craint ni la prison ni les chaînes, mais bien au contraire, ils ont méprisé même les puissances et les tortures de ce monde, armés et fortifiés désormais par lui. Donc c'est ce dont on parlait avec certains, vraiment on est dans un milieu qui est parfaitement hostile maintenant, et il faut savoir qu'on a la force avec nous, et donc surtout ne pas avoir peur, ça c'était Jean-Paul II, n'ayez pas peur, et Paul VI on a dit ne craignez pas, c'est vraiment des messages très importants. Dans le cadre vivant de cette nouvelle évangélisation, destinée à faire naître et à nourrir la foi opérante par la charité, en fonction de l'œuvre de l'Esprit-Saint, nous pouvons maintenant comprendre la place qui, dans l'Église, communauté de croyants, revient à la réflexion que la théologie doit construire sur la vie morale. De même, nous pouvons présenter... et après, on ne va pas sur les théologiens. Donc, dans la mission, dans notre... mission d'évangélisation, on a vu que par l'Église et par la force des sacrements, on va pouvoir avancer, mais il y a encore deux points qui sont essentiels. C'est on doit être formé. C'est la formation, donc nourrir notre foi, former notre foi, et ça c'est un élément qui est essentiel. On ne peut pas raconter n'importe quoi, on ne peut pas vivre, c'est ce qu'on disait en étudiant la splendeur de la vérité. Vous avez vu les différentes théories qui se sont élaborées par certains théologiens, et on voit qu'on peut dériver très facilement, ou on ne peut pas répondre de notre foi si on n'est pas nourri, si on n'est pas formé. Donc la formation pour l'évangélisation, la formation est essentielle, et notre place ici est tout à fait claire. Nous nous formons et nous avons la chance de communautés solides qui nous apportent cette formation. Un point aussi important, c'est la foi opérant dans la charité. Quand on est témoin de la vérité et on est témoin de l'amour. Et ça, c'est très important de vivre dans cet amour et de vivre dans cette vérité. Je me souviens d'un mot, d'une phrase qui est un petit peu abrupte, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. La vérité sans la charité, ça peut endurcir. La charité sans la vérité, ça peut pourrir. Donc il faut faire attention, les deux vont ensemble, vérité et charité, et c'est, là j'ai repris la charité dans la vérité, donc une des dernières encycliques de, de Benoît XVI. Là, j'ai pris quelques passages parce que c'est vraiment c'est très éclairant là-dessus. De là découle la nécessité de conjuguer l'amour avec la vérité, non seulement selon la direction indiquée par saint Paul, celle du veritas in caritate, mais aussi dans celle inverse et complémentaire de caritas in veritate, hein, la charité dans la vérité, la vérité dans la charité. La vérité doit être recherchée, découverte et exprimée dans l'économie de l'amour, mais l'amour, à son tour, doit être compris, vérifié et pratiqué à la lumière de la vérité. Nous aurons ainsi non seulement rendu service à l'amour, illuminé par la vérité, mais nous aurons aussi contribué à rendre crédible la vérité en montrant le pouvoir authentique et de persuasion dans le concret de la vie sociale. Donc c'est la vérité dans l'amour et l'amour dans la vérité, pour ce témoignage et pour cette évangélisation. Ce qui aujourd'hui n'est pas rien, compte tenu du contexte social et culturel présent, qui relativise la vérité, s'en désintéresse souvent et s'y montre réticent. Dépourvu de vérité, l'amour bascule dans le sentimentalisme. Hein, attention, donc c'est un petit peu les théories dont on nous parlait hier, hein, où c'est vrai, de vouloir tout expliquer, de vouloir tout accueillir hors la vérité, on va tolérer des choses qui sont intolérables et donc on va vider la charité de sa vérité et donc ça n'aura plus de sens, hein, on va tomber dans ce relativisme. L'amour devient une coque vide susceptible d'être arbitrairement remplie. C'est le risque mortifère qu'affronte l'amour dans une culture sans vérité. Et donc là, en fait, si je vous cite ça, c'est parce que sur le diocèse de Nîmes, on vit ça très fort, dans le sens qu'il y avait, avant que les choses se modifient un petit peu, le responsable bioéthique du diocèse était le chef de service de gynéco-obstétrique de l'hôpital, qui a une présence... une compassion, une écoute extraordinaire auprès des gens, mais il accepte tout. Hein. Il est dans la charité complète, mais il a complètement oublié la vérité. Donc tout se fait dans son service, je vous passe les détails, mais il est hyper accueillant, donc il est très bien reçu par tout le monde, parce qu'il accepte tout. Mais je veux dire, il est dans une coque vide, hein. Il apporte un amour, mais qui n'est plus fondé sur la vérité. Et là il se trouve que depuis 2 ans, quand il y a eu toute la révision des lois bioéthiques, avait été demandé que chaque diocèse envoie des délégués à Paris pour se former et puis pour après apporter cette information sur la bioéthique. Et il se trouve que ce chef de service n'a pas pu y aller. Et au dernier moment, avec Béatrice, on était allé hospiler un petit peu l'évêque et on s'est fait mandater. Donc on a pu apporter une parole un peu plus complète, et ça a été une bénédiction. L'amour, l'annonce et le témoignage chrétien de l'amour résident en cela, dans le contexte socioculturel actuel, où la tendance à relativiser le vrai est courant. Vivre la charité dans la vérité conduit à comprendre que l'adhésion aux valeurs du christianisme est un élément non seulement utile, mais indispensable pour l'édification d'une société bonne et d'un véritable développement humain intégral. Un christianisme de charité sans vérité peut facilement être confondu avec un réservoir de bons sentiments, utile pour la coexistence sociale, mais n'ayant qu'une incidence marginale. Donc, vérité et charité. Et donc, juste pour termine un petit peu ce propos, parce que j'avais repris deux textes qui m'avaient un petit peu éclairé et qui, pour nous fortifier, pour avoir courage là-dedans, c'est saint Paul, qui était donc à Rome, peu avant son exécution. « Je me suis bien battu, j'ai tenu jusqu'au bout dans la course, je suis resté fidèle, et je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. » Donc, soyons sûrs qu'au bout, on aura la récompense suprême. Et donc, tout ça est pour savoir vers quoi on marche et avec qui on marche. Donc, c'est Jésus qui parle et qui dit à Pierre, « Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Donc là aussi, il faut vraiment avoir confiance, et donc partir en témoin, partir dans cette nouvelle évangélisation, vraiment avec la force de l'esprit, dans l'amour et dans la vérité, et donc la vérité, on la travaille en ce moment. Voilà.
Vous pouvez rester là parce qu'il y a un professeur. Donc, il y a parmi nous un professeur de SVT qui pourrait justement nous donner un petit peu son témoignage. Et en même temps, ça pourrait aussi être une occasion de répondre à une question qui peut se poser aussi pour les difficultés de son enseignement. Vous voulez venir
Je suis un peu le tournoi. Prof de SVT. Ça fait 35 ans que je fais ce métier. Et j'aime ce métier, j'aime les élèves. Et c'est vrai que l'amour sans la vérité, c'est plus l'amour. Alors, depuis quelques années, les choses dérivent un petit peu. Prof de biologie, donc. On essaie de découvrir la vérité. Et donc, la vérité n'est pas en opposition avec la foi. Et je crois que c'est Jean-Paul II qui le dit, la force de la vérité, c'est la vérité elle-même. Donc, en cherchant la vérité et en ayant la foi, je suis complètement tranquille. Ça, c'est assez important, puisque j'ai repéré trois éléments qui sont un peu difficiles. Donc, depuis la réforme des lycées, par exemple en seconde, l'année passée, on doit traiter de l'évolution. Bon, c'est très bien l'évolution. Et on a eu une formation avec l'inspecteur, qui à un moment nous a dit comme ça, mais bon, faites ce que vous voulez, mais il n'y a pas quelqu'un au-dessus qui. Ouais, voilà. Alors, que faire avec ça? Moi, je suis tout à fait tranquille, et chaque fois que j'emploie le mot évolution, je mets ça dans le cadre de la théorie de l'évolution. Et de plus en plus, je suis amené à dire la chose suivante, la vérité scientifique est une vérité provisoire, elle s'inscrit dans des modèles. On travaille de plus en plus en termes de modèles. Et tant que le modèle, on n'a pas vérifié qu'il était faux, ben, il est provisoirement juste. C'est comme ça. Et donc je parle toujours de la théorie de l'évolution. Voilà, je dis dans le cadre de la théorie de l'évolution. Et là, ce que je dis, il y a vraiment, je dis au moins une fois par semaine, la vérité, elle est. La vérité existe. Nous sommes des chercheurs de vérité. Voilà, je crois que c'est important de dire que la vérité ne se débat pas. On peut débattre peut-être sur les moyens de la recherche, cette vérité, mais il faut bien ancrer dans la tête des jeunes que la vérité, elle est. Et que ce qu'on dit scientifiquement, et ça peut paraître paradoxal, mais c'est relatif. Et de plus en plus, il me semble qu'on est de moins en moins scientifique, de plus en plus scientiste. On enferme les choses dans des théories. Voilà, alors moi, je suis comme petit prof dans un petit lycée. Voilà, je fais ce que je peux avec les élèves qui me sont confiés. Voilà. Et peut-être aussi avec les profs qui sont mes collègues. Je crois qu'il ne faut pas condamner les autres, il faut discuter. Et c'est vrai qu'il faut être cohérent. On a la foi, on se doit d'être un peu des modèles, tout humblement. Alors, il y a un deuxième point qui est un petit peu difficile, c'est tout ce qui est lié à la procréation. Alors j'ai commencé à préparer les programmes de première S. Il me semble que je n'ai pas vu le mot procréation, mais je retrouve le mot reproduction. Alors, Et je dis encore une fois autre chose. Et, bon, mon témoignage est tout à fait simple. Moi, prof de biologie, je dois rester dans mon cadre de la biologie. Hein. Et ce que je leur dis, bah, écoutez, la biologie a montré quelque chose d'assez merveilleux, c'est que l'individu, il se forme à la fécondation. En parlant en biologie, l'unicité de l'individu, sa singularité, c'est à ce moment-là, sur le plan génétique. Donc, dès qu'il y a une fécondation, bien là, vous avez une nouvelle personne qui ne demande qu'à grandir. Alors, hier, j'en parlais aux jeunes à la table, par rapport à l'avortement, j'ai une phrase qui est tout à fait simple, que les gosses comprennent tout à fait. Vous savez, vous les jeunes, vous êtes bien solidaires les uns des autres, et la solidarité, c'est bien. Eh bien, vous savez, en tant qu'ancien embryon, vous-même, vous devez être solidaire des embryons. Il n'y a pas besoin de faire d'autres discours, ils ont compris. On peut rajouter que nous avons la chance d'être nés, qu'ils sont passés au travers du filtre. Et je pense que ils le perçoivent au fond d'eux-mêmes. Ils ont eu la chance de naître. C'est quand même pas rien pour cette génération. C'est pas rien. Voilà. Alors, on doit traiter aussi la contraception. Alors, j'ai regardé les cours, la pilule du lendemain et du surlendemain, comme on dit maintenant, on appelle ça de la contraception.
Contraception, oui, j'appelle ça contraception.
Mais alors,
c'est une erreur.
C'est un peu comme le serpent avec la paillette. C'est un mensonge, mais qui dit la vérité. Enfin, comment dirais-je ? Ils disent comme ça, ces méthodes peuvent aussi empêcher l'ovulation. Donc, du coup, on est dans de la contraception. Mm-hmm. Voilà. Donc, on tord le langage. C'est ce qui me fait le plus de mal, c'est ces torsions de langage que l'on fait. Voilà. Parce qu'il faut... je ne sais pas quel but il y a là derrière. Et puis, donc, il y a la théorie du genre, maintenant, qui arrive. Alors, si vous voulez, c'est bien de sortir.
C'est bon, comme ça.
Alors, la première réflexion qui m'est venue, c'est en SPT. Et donc, du coup, à la base, en quelque sorte, il y a une espèce de caution scientifique. Les sciences nous disent il y a la théorie du genre, donc c'est vrai, puisque c'est en science, et que la science dit la vérité. Donc c'est pour ça que ça peut piéger un petit peu au départ. Alors la question du livre, j'en ai un peu parlé aux collègues, on a choisi le mot à pire, puisqu'il y avait une pression, il faut donner les listes de livres avant telle date. Je crois que c'est le Hattier, il me semble. Enfin, le Belin, c'est assez épouvantable. En tant que prof de science, je suis un peu choqué, puisqu'on se réfère par rapport à des affiches de cinématographes, des choses comme ça, par rapport à des œuvres de fiction et d'imaginaire, et qui sont là, et puis on débat. Et j'allais dire, et nous avons des moyens pédagogiques pour faire avaler ceci. Alors j'ai une réflexion collègue assez intéressante. Elle m'a dit, mais enfin, moi j'ai un garçon, une fille, mais c'est pas la même chose, quoi. Autrement dit, elle me disait que la loi naturelle est inscrite quand même dans le cœur des jeunes. C'est évident. Voilà. Voilà. Bon, en premier lettre aussi, j'ai un chapitre qui s'appelle... devenir homme ou femme. Alors, j'ai traduit ça en les différences biologiques entre un sexe masculin et un sexe féminin. C'est tout, quoi. Mais devenir homme ou femme, vous voyez comme c'est un petit peu tordu, pervers. Bon, voilà donc à quoi sont confrontés les profs de SVT. Mais c'est vrai que dans le milieu, avec mes collègues, vous savez, le chimpanzé, le singe, c'est 99% d'ADN en commun. Donc, un singe, un homme, c'est un peu la même chose, quoi. Voilà. Alors, du coup, petite anecdote, puis j'en finirai là. C'était la fin du cours de première S, et puis cette année, il n'y a pas eu trop de grèves ou de choses comme ça. J'ai pu finir le programme. Et à 5 minutes de la fin, on parlait du cerveau, tout ça. Puis elle s'est dit, mais c'est quoi la différence entre un homme et un animal? J'ai dit, écoutez, c'est le moment de la conclusion, marquez ceci. Mais vraiment, je ne sais pas si c'est du Un homme, il a la volonté d'aimer. Voilà, remarquez ça. Puis vous en faites ce que vous voulez.
Peut-il dire qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, c'est simplement une question de fonction dans la société. Comment est-ce pensable qu'on puisse dire une chose pareille?
Il est évident que c'est une ineptie, il suffit de reprendre les choses par la base. Hein, simplement, on apprend en psychologie, on apprend en anatomie, on apprend en physiologie, etc. Donc dans toutes les matières médicales qui font qu'on étudie l'homme et la manière dont il fonctionne pour pouvoir le suivre et l'aider à avancer en bonne santé, tous ces éléments-là, on les étudie en fonction de ce qu'est l'homme, hein, masculin, hein, avec ses hormones, avec son comportement, avec sa psychologie, etc. On apprend ce qu'est un fonctionnement féminin, hein, et il est évident que c'est des choses totalement différentes, et que je compléterai en disant complémentaires, bien entendu. Hein. Donc, mais là où le piège a été introduit, c'est quand on a parlé d'égalité homme-femme. Il ne peut pas y avoir d'égalité homme-femme, puisque c'est par définition des personnes différentes. Hein. Donc elles sont complémentaires, qu'il y ait des fonctions qui peuvent être remplies par l'un ou par l'autre, c'est évident, mais il y en a d'autres qui seront remplies préférentiellement par l'un ou préférentiellement par l'autre. Après, la liberté de chacun existe aussi. Donc on ne peut pas affirmer et on ne peut pas dire qu'on se détermine homme ou femme, quel que soit son sexe biologique, c'est évident que c'est une ineptie. Alors,
j'ajouterai sur cette question importante qu'on avait vue il y a 2 ans et l'année dernière aussi, cette distinction entre personne et nature, hein, puisque le fondement de toutes ces théories, c'est le rejet de Dieu, c'est le rejet de la nature. Hein, parce que qui dit nature dit création, qui dit nature dit limite. Hein, donc, dans notre théologie de la création, hein, nous disons que nous sommes tous créés par Dieu, et donc notre être, hein, quand nous recevons notre être est limité par notre nature. Hein, c'est-à-dire qu'un ange n'est pas un homme, Pierre n'est pas Paul, etc. Donc, ma nature, qu'on appelle l'essence aussi en philosophie, limite mon existence. Et donc, je ne peux devenir que ce que je suis. Donc, oui, deviens homme, deviens femme, parce que ma nature, homme et femme. Alors, au niveau de la dignité, c'est pour ça qu'il faudra que dans les années à venir, on puisse faire une session sur cette question de la dignité de la personne et de la complémentarité au niveau des natures. C'est-à-dire qu'il y a une dignité personnelle, une égale dignité entre les hommes et les femmes, car nous sommes tous d'abord une personne humaine. Et cette personne humaine, eh bien, elle est... Alors, c'est là que, dans la philosophie, même thomiste, la philosophie, il y a du développement à réaliser pour distinguer la nature féminine et la nature masculine, ce qui n'a pas été suffisamment développé parce que les philosophes étaient surtout des hommes, hein, et que donc nous avons quand même maintenant avec une Edith Stein des apports justement qui pourront permettre ce développement justement pour bien distinguer cette complémentarité entre la nature féminine et la nature masculine, et c'est Jean-Paul II qui a fait le plus beau développement dans la théologie du corps. Hein, puisque justement, nous sommes là, pour comprendre tout cela, il faut le comprendre dans le mystère trinitaire. Hein, et c'est ce mystère trinitaire qui nous permet de comprendre qu'il y a une nature unique en Dieu, avec une pluralité de personnes, et que dans la création de l'homme, l'homme n'est pas créé comme un individu. Dans le livre de la Genèse, on part du singulier au pluriel. Hein, donc, il le créa à l'image de Dieu, et homme et femme, il le créa. Donc, tout de suite, on passe du singulier au pluriel. Donc, il y a une nature unique, et ensuite, il y a cette distinction homme et femme. Nous sommes là aussi devant un mystère, hein, et nous sommes là devant un mystère de la création. Et je veux dire qu'il faut une certaine humilité humilité de l'esprit et du cœur pour accepter que nous ne sommes pas des dieux. Car finalement, qu'est-ce que le péché originel ? Le péché originel, tel que l'a interprété Jean-Paul II dans le livre de la Genèse, le péché originel, c'est de vouloir être Dieu. Vous serez comme des dieux. Voilà. Et donc ici, eh bien, nous sommes toujours au même point de départ. Nous voulons être comme des dieux. Nous n'acceptons pas d'avoir une nature limitée. Et c'était tout à fait ce que disait Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, je suis l'existence et mon essence, c'est moi qui me la donne. Donc, je vais devenir ce que je veux devenir. Voilà. Et vous parliez hier, d'ailleurs, vous vouliez rajouter quelque chose. Vous avez parlé hier soir de Jacques Perret. Jacques Perret était un homme excessivement humble, vrai. Et M. Soulage demandait toujours à Jacques Perret ce qu'il pensait. Et un jour, on a fait donc une présentation de Jean-Paul Sartre. Ça m'a marqué profondément. Et donc à la fin de cette présentation, M. Soulage a dit, ici il y a quelqu'un qui a très bien connu Jean-Paul Sartre puisqu'il était avec lui à l'école normale. M. Perret, voulez-vous venir nous dire ce que vous pensez de Jean-Paul Sartre ? M. Perret n'a jamais fait de critique de qui que ce soit, du moins jamais de jugement de valeur. Il a dit, je vous dirai simplement ceci, c'était un être abject.
J'ai jamais vu M. Perret aussi. Voilà. Une colère rentrée. Hein? Une colère rentrée, de, ne voulant pas évidemment manquer la charité, mais voulant quand même dire aux gens qu'il ne fallait pas du tout, on ne pouvait en aucun cas faire confiance à Jean-Paul Sartre, même comme être humain. Il l'avait connu à l'école normale, très bien.
Et il ne faut pas oublier que Jean-Paul Sartre a fait le choix du refus de Dieu. Hein? Il a fait le choix explicite du refus de Dieu. Tu m'as créé libre, je ne retournerai pas sous ta loi. Vous comprenez ? Et ce que nous avons aujourd'hui avec la théorie du gender, c'est une continuation de tout cela. Il y a un rejet de la nature au départ.
Et de Simone de Beauvoir.
Et de Simone de Beauvoir, tout à fait.
Commencer avec cette théorie-là.
Un petit point que me faisait préciser le frère. Et ce que vous disiez tout à l'heure, là, sur des petits points scientifiques par rapport à. Que ce soit sur l'évolution, que ce soit sur le début de la vie, etc. Il est évident, scientifiquement sur le début de la vie, c'est ce que vous disiez, mais c'est que l'être humain commence à la fécondation. Hein, c'est évident que scientifiquement, c'est parfaitement prouvé, c'est à la conjonction des deux patrimoines génétiques, hein, du spermatozoïde et de l'ovule, quand ces deux noyaux se rencontrent et se fusionnent, où là, on a un être nouveau, unique, hein, et qui est parfaitement reconnaissable et identifiable, puisque maintenant, vous connaissez toute la police scientifique qui va déterminer avec l'ADN, etc. Il est évident que là, il est parfaitement identifiable dès la fécondation, puisque c'est à ce moment-là qu'il trouve sa naissance. Donc ça, le point très important, l'être humain commence à la fécondation. Hein, et après, on a un continuum. Hein, il n'y a jamais... Ce qui est très important, c'est de savoir que de la fécondation jusqu'à sa mort naturelle, il y a un continuum sans aucun élément de plus. Il va grandir, il va croître, il va maturer, etc. Mais il n'y a aucune étape autre qui puisse lui changer sa nature. Il n'y a rien. Alors, il est évident que un embryon, c'est un embryon, il n'a pas encore complètement l'aspect qu'on a maintenant, au même titre qu'un nouveau-né, il n'a pas l'aspect d'un adolescent, et l'adolescent n'a pas l'aspect d'une personne de 50 ans ou d'une personne plus âgée. Donc, c'est-à-dire, on a une évolution permanente de la fécondation jusqu'à notre mort naturelle, et c'est un continuum. Alors après, arbitrairement, et là c'est l'arbitraire pur, hein, qui n'a plus aucun autre repère, qui va dire, c'est l'arbitraire qui peut être scientifique, hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'à la quatrième semaine, les cellules cardiaques battent, hein, donc le cœur bat, hein, à la sixième semaine, le système neurologique commence à être en place, etc. Donc on a des étapes dans le développement. Hein. Alors, on va dire, ben, c'est un être humain à partir du moment où le cœur bat. C'est certain, c'est pour ça. D'autres, c'est un être humain à partir du moment où il a une sensibilité. D'autres, c'est un... etc. Et alors, la loi française, c'est un être humain à partir de la naissance. Hein. Bon, pourquoi ? Donc il y en a qui vont naître à 6 mois s'ils sont un peu prématurés et donc ils seront êtres humains avant les autres qui vont naître à 9 mois. Bon, peu importe. Donc c'est vous dire que c'est de l'arbitraire pur. Donc en fait, la réalité scientifique et la réalité tout court, la vérité, c'est que l'être humain commence à la fécondation. Deuxième point, vous parliez de la théorie de l'évolution. De toute façon, c'est une théorie, donc qui est peut-être provisoire, qui progresse, qui avance, parce qu'il y a des découvertes qui se font tout le temps, et la théorie de l'évolution n'est absolument pas en opposition avec la vérité biblique. Hein. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Hein. Simplement, après, dire qu'on descend du singe, c'est une totale erreur. Hein. On a un ancêtre commun sur un plan de l'évolution génétique, c'est clair. Hein, mais il y a un moment où Dieu a insufflé son esprit pour donner à l'homme son âme. Hein. Bon, et donc l'évolution, après, donc il y a l'évolution biologique qui est un élément, et il y a après l'homme, quand il est devenu homme, quand Dieu lui a créé homme. Donc ça, c'est autre chose. D'accord. Mais donc la théorie de l'évolution n'est pas en opposition avec la foi. Hein. Donc surtout, c'est important de ne pas s'opposer systématiquement à la théorie de l'évolution. Ça n'apporte rien, c'est un faux débat.
Merci.